Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons évidemment sur la fantastique victoire de Victor Pérez à l'Abu Dhabi Championship, première victoire en Rolex Series de l'histoire pour un joueur français. Nous aurons avec nous Victor Pérez et son ancien coach Mike Magher. Et allez, on file sans attendre retrouver Victor Pérez qui n'en finit plus de crouler sous les sollicitations médiatiques. Bonjour Victor.
Oui, salut.
Bravo avant toute chose. 24 heures après, vous êtes dans quel état d'esprit après cette fabuleuse, fantastique victoire? On ne sait pas quel superlatif employer.
Oui, c'est sûr. Dur de décrire vraiment ce qui s'est passé parce que comme d'habitude... Ça se passe toujours aussi vite, on n'a pas forcément trop le temps de réaliser, de savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est le meilleur début d'année de ma carrière, de mes 4 ans de tour, et forcément un début d'année idéal avec les objectifs à venir.
On va y revenir. Vous avez déclaré hier, après, à l'issue de votre victoire, que vous aviez bien joué la semaine dernière, mais que ça ne voulait rien dire. Vous êtes senti comment cette semaine par rapport à la semaine dernière? Et qu'est-ce que la semaine dernière vous a apporté pour cette semaine, Victor?
Vraiment, le niveau était assez similaire entre la semaine dernière et cette semaine. Mais comme je disais, ce n'est pas parce qu'on joue bien sur la semaine de l'Aero Cup qu'on va forcément bien jouer dans l'autre schéma 72 trous standard. Par rapport à ce qu'on a joué la semaine dernière en match play avec des foursomes, on a quand même tendance à taper moins de coups. Donc c'est vrai que par rapport à ça, le schéma est quand même complètement différent. Donc on espère que forcément on va jouer de la même façon, mais rien n'était garanti. Et je suis très content justement que mon jeu est resté sur la même longueur d'onde que la semaine dernière.
Et quel début de partie, hein, moins 6 en 11 trous, vous avez pris la tête assez rapidement et vous êtes même détaché, en tout cas vous avez pris seul la tête, ça a dû être assez génial à vivre, ce contrôle de votre jeu sur un des plus gros tournois de la saison.
Oui, je me suis bien senti toute l'année, depuis le début décembre, là, depuis le début de l'année, enfin de l'année de calendrier, entre guillemets, DP World. Et c'est vrai que je me sentais bien dans mon jeu, on se sent bien dans la balle. J'avais confiance dans ce que j'ai travaillé. Mais après, comme je dis toujours, il n'y a que le dimanche d'un tournoi qu'on voit vraiment si ça tient. Et c'est vrai que j'étais en contrôle de mon jeu d'entrée. Je savais que de toute façon, à partir du 13, 14, les trois birdies sont très rares. Au retour, parce qu'on va jouer avec le vent contre de la gauche sur des trous entre guillemets les plus difficiles. Et qu'il faut vraiment optimiser les par 5 au début, que ce soit le 2 et le 7. Il faut vraiment essayer de prendre des points. Peut-être essayer de prendre un point au 1 ou au 3, au 5, sur des trous voilà, où on peut essayer d'avoir des opportunités. Et je savais que voilà, avec 15 joueurs à moins de 3 coups de la tête en dimanche, il fallait forcément faire une grosse partie pour gagner parce qu'il y avait forcément quelqu'un qui allait bien jouer. Et j'ai pu arriver à me détacher en début de partie, prendre un peu la tête. Et après, c'est jamais évident de finir... Parce qu'on sait que tout le monde est en train d'essayer de nous remonter. On sait que c'est dur de faire des birdies. Et forcément, on va se tendre un petit peu sur le retour, ce qui m'est logiquement arrivé.
On est obligé de revenir sur cette sortie de bunker au 17. Vous l'avez déclaré, c'est le meilleur coup de votre vie, Victor?
Oui, c'est vrai que qui doit être... parce que ça a permis d'amener sur la suite, mais je le mets à peu près au même niveau que le deuxième coup du 17 à St Andrews pendant le Dunhill Links, avec à égalité avec Matthew Southgate, 2-3 joués pour mettre le coup de fer sur le green et de suite mettre la pression sur Matthew sur son long putt. C'est un peu le même scénario ici où fallait forcément faire un bon coup parce que Sébastien était en super position sur le green, il avait un putt pour birdie, ça pouvait pratiquement faire birdie pour lui, bogey pour moi, et il prenait un coup d'avance au 18 et je me retrouve à faire birdie et lui part et prendre 2 points d'avance. Donc c'est vrai que c'est un coup que forcément je me souviendrai toute ma carrière.
Et du coup, vous devenez un peu fou, en tout cas, vous faites un chest bump avec votre de caddie, un geste qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec vous ou auquel on s'attend pas forcément. Vous étiez comme électrisé, Victor?
Ouais, c'est vrai qu'on s'attend pas forcément à ce qu'elle rentre, en fait. C'est vraiment ça. J'ai fait à peu près le coup que je voulais faire. Elle est sortie un poil plus keen. Je voulais essayer de la faire tomber vraiment au drapeau et essayer de l'arrêter net au drapeau. Elle m'est sortie un peu clean. Elle est tombée longue et avec le vent, plus voilà, l'avoir pris un peu plus clean, elle avait un peu plus de backspin et elle a permis de revenir. Et bon, à partir de là, je savais que le coup était bon, mais d'avoir vraiment ce bonus que la balle rentre, ben voilà, ça permet un petit peu l'explosion de joie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément fait dans le passé, mais que j'ai probablement beaucoup fait la semaine dernière à l'Aero Cup, pour ceux qui ont pu avoir la chance de regarder. Et voilà, c'était assez naturel dans le moment.
Donc en fait, vous êtes calme en apparence, mais à l'intérieur, ça bouillonne, Victor.
Ouais, je sais pas si ça bouillonne. Aussi, il y a voilà, le fait que ça soit un Rolex Series, le fait d'avoir mené un petit peu toute la partie, de la façon dans laquelle la partie s'est développée. C'est vrai que ça aurait sans doute été différent si on démarre une heure et demie avant les derniers, qu'on fait une carte de moins 5, moins 6, que la tempête se lève et que tout d'un coup, tout le monde fait des bogeys, qu'on est au clubhouse et que tout d'un coup, on gagne. Je pense que la situation aussi fait qu'on réagit d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas qu'on est ça boue à l'intérieur tout le temps ou ça ne boue jamais. Je pense que ça dépend vraiment de comment le tournoi se développe. Et dans une situation comme ça, un premier tournoi en Rolex Series, c'est vrai que j'avais jamais gagné de Rolex Series. Et forcément, ben on est si proche du but qu'on a envie que ça se termine quand on est devant.
Vous avez parlé de réussite hein, pour cette victoire. En revanche, au 18, votre drive, pas de chance. Vous dites mal placé, limite plugué dans le bunker. Ça doit être dur à vivre à ce moment-là.
Oui, c'est dur parce qu'on savait que bah, si j'avais un lie à peu près correct, j'aurais pu probablement passer la butte qui est au milieu du fairway et pouvoir aller sur le green tranquillement en 3. Tranquillement, entre guillemets, je vais dire, mais au moins être sur le green et savoir faire un par qui allait vraiment plier le tournoi, entre guillemets, et forcer les deux autres joueurs à faire eagle, même si Minou, qui était dans la dernière partie, n'est pas assez loin. Mais tout d'un coup, voilà, cette balle pluguée, enfin semi-pluguée, entre guillemets, rend vraiment le coup différent. Parce que si j'avais à vraiment faire 40 mètres, sortir du bunker, j'aurais eu encore un coup de faire 4. Et là, tout d'un coup, je suis dans le même scénario où c'est dur de faire un par. Et là, j'ai encore voilà, pas mal de réussite où la balle s'envoie vers l'obstacle, elle reste en suspens sur la butte. J'arrive à m'en sortir et faire 6 qui a suffi, juste ce qu'il fallait.
Vous l'avez dit, c'est forcément la plus belle victoire de votre carrière, Victor.
Oui, c'est vrai, bah, surtout par le fait que ça soit un Rolex Series. Le Dunhill était un énorme tournoi de l'European Tour. C'était sur ma première année, ça a apporté des choses différentes. C'est vrai que voilà, ma première année sur le Tour, j'étais content de bien performer, d'avoir passé beaucoup de cuts, d'avoir fait quelques top 10, des bons résultats, mais voilà, de gagner, c'est vrai que de passer ce cap de gagner, ça enlève quand même pas mal de pression. Après, personnellement, j'avais l'exemption pendant 2 ans, ça change quand même beaucoup de choses. Mais cette victoire-là, elle est forcément différente dans une année de Ryder Cup, dans une année d'objectifs, de cartes de PGA Tour. C'est vrai que ça me met dans une très bonne position pour le reste de la saison.
Et en tout cas, on vous a vu très ému après cette victoire, Victor.
Ouais, parce que voilà, j'ai beaucoup travaillé pendant l'hiver et je pense qu'on est tous forcément plein de recherches. On a toujours envie de s'améliorer. Tout le monde travaille au maximum, passe l'hiver à essayer d'améliorer, de peaufiner son jeu, à passer des heures aux practices, des heures à la salle de sport, souvent tout seul, à faire ce dont on croit être le meilleur pour nous. Et malheureusement, dans un sport individuel, il n'y a jamais de partenaire pour nous sauver. On est toujours seul face à notre destin, entre guillemets. On fait ce qu'on pense être bon et on espère que ça va fonctionner le jour J. Mais forcément, il n'y a jamais de garantie. Et quand on arrive à concrétiser, passer au-delà de la ligne et de gagner voilà, un gros tournoi, ben, on est forcément très fiers de ce qu'on a fait. On est très contents. On sait qu'on avait forcément une part de réussite et que les choses se sont bien alignées pour nous à ce moment-là, et il faut arriver à le savourer. Et je pense que l'émotion était voilà, égal à la charge de travail que j'ai faite pendant les 6-7 semaines de break depuis la finale de la race en 2022.
Et alors, vous avez travaillé seul ou avec Pete Cowan, avec toute votre équipe? Racontez-nous un peu ce travail cet hiver si important apparemment et si intense et qui a apporté ce résultat, Victor.
Oui, j'ai jamais eu historiquement tendance à jouer en décembre parce que j'estime que c'est vraiment la période de l'année et c'est quelque chose avec qui, voilà, dans ma team, on parle beaucoup d'avoir justement ces blocs où on peut s'entraîner, où on peut vraiment travailler, essayer de progresser parce que pendant la saison, c'est très dur de progresser, on n'a pas forcément le temps. On va faire 3-4 semaines de tournoi, on va avoir 2 semaines off, on n'a pas le temps de travailler physiquement ou techniquement. C'est un petit peu du bricolage pendant l'année. C'est vrai que ces phases de travail sont hyper importantes et on avait mis des axes de travail dans chaque compartiment du jeu et voilà, je suis juste très content de voir que le travail paye parce que c'est jamais garanti, comme j'ai dit tout à l'heure. On a beau faire le maximum, voilà, rien n'est garanti. On peut avoir la meilleure stratégie, le meilleur plan, travailler et le golf est un sport tellement ingrat que de temps en temps, ben, on peut quand même rater le cut, faire des contre-performances alors qu'on est probablement pas loin de la vérité et pour ça, les remises en question sont tout le temps là à nous regarder droit dans les yeux en golf et donc quand ça réussit, forcément, on est satisfait, on est ravis de gagner les tournois.
Vous pouvez nous en dire un peu plus de ce travail avec Pete Cowan, notamment technique. Vous vous sentez plus à l'aise dans votre swing, dans votre jeu de fer notamment, ou le driving? Expliquez-nous un peu, Victor.
Oui, c'est vrai. Ben, j'ai fait un gros travail avec Pete depuis 2 ans maintenant, avec lequel voilà, ça... On a eu une ligne de conduite sur laquelle on s'est tenu. Il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles j'ai eu besoin de travailler, des choses qui prennent du temps. Et j'ai toujours cru en ce qu'il a voulu m'expliquer. Et je pense que ça a juste mis du temps à bien s'emboîter, à ce que je comprenne vraiment ce qu'il a voulu me faire travailler. Et je pense que j'ai une meilleure compréhension des éléments techniques que je dois faire dans mon swing, qui me permettent d'être plus en confiance, d'avoir une dispersion au driving sur les jeux de fer qui est un petit peu plus proche qu'elle ne l'était par le passé, ce qui permet de faire un petit peu moins d'erreurs. Même si jeudi, j'ai mis une balle dans le rough tôt dans la partie qu'on n'a pas trouvé et qui a donné un triple bogey tôt jeudi, j'ai été quand même très content de quand même faire peu d'erreurs cette semaine, à limiter les bogeys et à permettre justement avec 3-4 birdies d'arriver toujours à faire un super score.
Victor, on le dit toujours dans cette émission, mais le golf c'est un jeu fabuleux quand ça se passe bien. Là j'imagine qu'avec ce swing, avec tout ce travail depuis 2 ans avec Pete Cowan, là vous vous sentez bien, vous l'avez prouvé. J'imagine que vous devez être très excité de la suite de la saison, parce que quand on joue bien à ce jeu, c'est absolument incroyable. Et là, vous avez battu quelques-uns des meilleurs joueurs européens, si ce n'est du monde. Donc, j'imagine que vous devez être très enthousiaste et très satisfait de votre jeu.
Oui, on est content. Et je pense que dans ces moments-là, il faut en profiter au maximum. Et je pense qu'il faut rester humble, même dans la victoire, parce qu'on sait à quel point le golf est éphémère et que de temps en temps, on va bien jouer pendant quelques mois, puis on va un petit peu moins bien jouer, puis on va re-bien jouer. Et je pense qu'il faut aussi garder la tête froide, la tête sur les épaules, de ne pas s'emballer quand on joue bien. Mais je suis aussi conscient du travail qui a été fait. Et je sais que mon jeu est en place, du moins le dernier résultat que j'ai fait, que ce soit la Hero Cup ou forcément la victoire la semaine dernière, l'ont prouvé. Donc c'est beaucoup de positif.
En tête de la race to Dubaï, mais surtout deuxième du classement de la Ryder Cup. C'est plus que jamais un objectif. On sait que vous aviez longtemps été dans les clous il y a 2 ans pour les États-Unis. Là, j'imagine que vous êtes pleinement lancé et que vous avez cet objectif en tête, Victor.
Oui, les objectifs, c'était ce que j'avais dit en fin d'année dernière, la carte du PGA Tour et la Ryder Cup. Je pense que pour chaque joueur européen, l'ambition est à peu près la même avec une année et des potentielles cartes sur le PGA Tour et une Ryder Cup en Europe. Et pour moi, c'est le début de saison idéal.
Et vous avez même dit, non seulement participer à la Ryder, mais vous avez même été au-delà, aider l'Europe à ramener la Ryder Cup à la maison. Victor, on sait qu'il y a une énorme équipe américaine, donc ça prouve vos ambitions et votre confiance, Victor.
Oui, bah, comme je dis toujours, jouer une Ryder Cup en soi, ça amène rien. Si c'est pour prendre une valise, entre guillemets, je pense que ça amène rien. Je pense que l'objectif est toujours le même, essayer de contribuer, de faire confiance au capitaine Luc Donald et de suivre un petit peu ses consignes, de contribuer de la manière dont lui voit le meilleur schéma pour ramener la Coupe en Europe. Et je pense que l'objectif, il est là, de jouer pour gagner, de pas juste jouer pour participer, parce que c'est une mentalité, je pense, qu'il faut avoir, même si de temps en temps, on peut penser que c'est un petit peu surconfiant, un petit peu faussé. Bref, je pense que si au moins on part et on croit qu'on a une chance de gagner, ben on a une chance de gagner. Et si on y va en pensant figurer, ben on est pratiquement sûr de perdre.
Est-ce que vous êtes plus fort que quand vous étiez dans le top 30 mondial à la 29e place, Victor? Vous vous sentez plus fort, plus confiant dans votre jeu?
C'est dur de dire. Les périodes sont différentes. C'était déjà il y a deux ans et demi, trois ans. Je pense qu'il y avait un peu d'insouciance dans ma première année et demie, que forcément j'ai perdu parce que j'ai maintenant 4 ans d'expérience sur le tour. Donc peut-être un petit déficit sur ça, mais peut-être un gain d'expérience. Donc je pense que c'est la balance est dure à estimer. Est-ce que j'étais meilleur avant, meilleur maintenant? Je suis surtout content d'être là où je suis aujourd'hui et d'avoir un jeu qui a bien performé la semaine dernière. Mais comme je dis toujours, cette semaine, jeudi matin, tout le monde est remis à zéro et on n'est jamais aussi fort que sa dernière performance. Et le score de jeudi remettra probablement un niveau qui est une fois de plus à prouver chaque jour à nous-mêmes et face aux compétiteurs qui forcément ont un super niveau de jeu. Rory joue cette semaine avec tous les autres grands joueurs, donc il n'y a pas trop le temps de tergiverser sur ça.
On l'a dit, énorme victoire Rolex Series avec un énorme champ de joueurs et pourtant vous ne rentrez pas dans le top 50 mondial. On sait qu'il y a pas mal de discussions là-dessus. Est-ce que vous trouvez ça anormal de ne pas rentrer dans le top 50 avec cette victoire, Victor, ou alors vous ne focalisez pas là-dessus?
Non, je pense que je ne me focalise pas forcément dessus. Ce qui est important, c'est de progresser, d'améliorer son niveau et de voir comment les choses évoluent avec le temps.
Donc là-dessus, pas de calcul pour savoir ce qui vous manque pour rentrer dans le top 50 et avoir ce fameux ticket pour Augusta, notamment, Victor?
Non, je pense que je vais essayer de continuer à progresser, continuer mon travail et laisser les choses se développer comme elles se font, entre guillemets.
Et alors, avec cette victoire, pour terminer, Victor, le calendrier va changer ou alors vous continuez à jouer Dubaï cette semaine et les Émirats Arabes Unis la semaine d'après, Ras Al Khaimah?
Comme je dis, c'est un deuxième Rolex Series qui s'enchaîne. Je sors forcément d'une très très grosse performance. J'ai pas envie de comme j'ai l'habitude de faire, de me projeter trop loin parce qu'il y a encore un gros tournoi. C'est pas forcément le meilleur moment de tergiverser, de commencer à penser au futur. Là, c'est vrai qu'il y a un gros tournoi. Faut remettre les pendules à l'heure, redémarrer à zéro et essayer de me concentrer sur cette semaine.
Merci beaucoup, Victor Pérez, d'avoir été avec nous sur ce podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et puis alors, bonne chance cette semaine à Dubaï. Et puis surtout, bonne chance pour la suite de la saison. Et à bientôt.
Merci,
à ce micro. Merci, Victor.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Merci, ciao.
On l'a entendu, hein, Victor qui s'entraîne dorénavant avec Pete Cowan, mais auparavant, il avait fait toute sa carrière pro et même un peu avant ses dernières années amateurs avec Mike Mager, le coach américain basé à Illparitz, au Pays Basque. Et on va joindre tout de suite Mike Mager. Bonjour Mike.
Hello Arnaud, comment tu vas?
Très très bien, très très bien. Alors Mike, est-ce que vous avez regardé cette victoire de votre ancien protégé dimanche à la télé?
En fait, j'ai vu... Après, parce que j'étais en fait en train de travailler et Non, c'était très propre et super bien. Ouais, très contente.
Vous l'avez eu au téléphone depuis, Victor, ou vous lui avez envoyé un message de félicitations?
Oui, on a communiqué dimanche.
D'accord. Vous l'avez de temps en temps au téléphone, vous lui parlez?
Peu, très peu.
Peu. Il ne vous demande pas de conseils, donc maintenant, c'est fini le travail entre vous, même les conseils, il n'y en a plus?
Non, pour nous, c'est plutôt dans, c'est plutôt terminé entre nous deux. Et voilà.
D'accord. Mais vous savez quand même, vous vous échangez encore sur son swing, vous savez comment il travaille avec Pete Cohen?
Oui, en fait, il utilise plutôt, il voulait utiliser beaucoup plus de côté droite, dans lequel, c'est ça pour lequel ils ont, nous on avait pas la même opinion, parce que moi, il est complètement gaucher. Et quand il joue aux States, il vit tous les Américains qui jouent plutôt côté droite, qui est normal. C'est comme nous on joue depuis très, 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 très longtemps. Mais c'est pas la façon je travaille avec lui, parce que sa façon, il est complètement gaucher. Il peut même pas lancer la balle 5 mètres avec sa main droite. Donc, nous, on a travaillé beaucoup avec Ben Shear, qui est son physio, dans lequel tu améliorais beaucoup son rotation de bassin et équilibre, flexibilité, parce que pour moi, c'était beaucoup dans les pivots. Techniquement, c'était essayer de garder les deux bras relativement droit et droit jusqu'au niveau de l'hanche, ça c'est de force de pivot d'arriver. Mais moi, je ne voulais pas pour lui utiliser sa main droite. Et donc, une philosophie qui était différente. Et il a fait un choix. Donc, exactement, qu'est-ce qu'il y a de différence aujourd'hui? Et il n'y a pas vraiment beaucoup.
D'accord. Vous l'aimez, son swing actuel? Vous en pensez quoi? Vous voyez, et donc vous venez de parler du travail avec Pete Cohen, mais vous en pensez quoi de ce swing?
Well, the motion n'a pas vraiment changé. Son motion, c'est son motion. Une chose qu'il travaille beaucoup avec Ben, vis-à-vis son propre... parce qu'il a compris, the motion même, ça vient de ton corps. Ça vient de tes appuis. Donc, depuis 2 ans, il focalise beaucoup sur les appuis, beaucoup sur le mouvement de pelvis. Et parce que ça, c'est la largeur de le swing et le plan de ton swing. Après, c'est la façon comment tu voudrais, entre guillemets, trouver un motion, tu peux être répétitif. Et donc, c'est pour quelle raison, pour 2 ans, il a ramé. Parce que tout d'un coup, il a loupé cette aile gauche parce qu'il voulait absolument utiliser beaucoup plus sa main droite et bras droite et load complètement sur la jambe droite. Mais il peut pas, il avait des difficultés pour faire le retour parce qu'il peut pas, il est complètement gaucher.
Et donc là, vous trouvez que ça y est, il a intégré un peu les changements de Pete Cohen? Vous trouvez qu'il swing aussi bien qu'avant, mieux qu'avant?
Honnêtement, non, je vois pas, parce que je regarde, mais je vois de flexibilité. C'est ça la chose. Je vois qu'il est toujours mieux en mieux chez lui. Toujours dans son flexibilité, toujours sur la rotation, toujours sur la décontraction. Ça, je vois. Moi, je dis, en fait, Pete avait l'influence sur le bunker. Donc, même... Tu avais le moment où nous trois étaient dans le bunker en train de trouver des solutions pour lui de faire des coups. Et c'est pour lequel dimanche, on rigolait un petit peu parce qu'on sait, ça c'était son Achilles tendon, entre guillemets, the weakness, c'était son sortie de bunker. Mais de façon de golf, ça se passe. Ça, c'est les choses que tu as besoin d'apprendre. Et dans le moment le plus important sur un tournoi, ce type de coup va arriver. Est-ce que tu es prêt ou pas? Et là, il était prêt. Donc, il est libre. Donc, j'anticipe une année très forte de Victor parce qu'il y a confiance maintenant.
Justement, revenons sur cette sortie de bunker au 17. Vous disiez que vous aviez beaucoup travaillé avec Pete Cohen, beaucoup cherché de solutions
beaucoup,
tous les
nous
trois,
deux,
c'est
oui,
ça?
Oui, ouais, nous trois, on a rigolé beaucoup parce que dans un moment donné, tu as venu trois dans le bunker et tu as Pete et moi en train d'essayer de donner. En fait, c'est plutôt une phrase, une image dans quel sens pour lui de faire. Et tu avais le moment, même Pete et moi regardaient une et l'autre, on ne savait pas pourquoi Victor avait autant de problèmes. On était incapable de comprendre pourquoi il y avait le problème. Mais finalement, Victor a trouvé une solution. Et là, si tu veux, c'est dans le sens, quand son poids de corps est complètement gauche, il reste gauche, il peut utiliser sa main droite dans le bon sens. Et donc ça va arrêter les, tu peux dire, souhaits ou les glissements de son corps. Qui avait le problème, qui donnait le problème pour le pivot de Sébastien. De temps en temps, c'est le top, ou même le gratte. Ouais.
Et donc, cette sortie de bunker au 17, ça ne vous a pas plus surpris que ça? En tout cas, c'est devenu quasiment un point fort de son jeu, ou en tout cas, ce n'est plus un problème du tout pour Victor de sortir d'un bunker?
C'est plus du tout un problème. Non, c'est plus du tout un problème. C'est plus du tout. Plus du tout. Nous, on dit en anglais, the monkey is off your back.
Ok. Le singe est descendu, n'est plus sur le dos. Vous n'avez plus votre problème. Et alors, on disait aussi qu'il était un peu faible au chipping. Vous n'étiez pas forcément d'accord là-dessus. Est-ce que vous le trouvez là-dessus?
Non, le chipping, on avait. C'est toujours le même. Pete, c'est vrai, il a montré un chip entre guillemets. Sur le tight line, de mettre le wedge sur la pointe fermée, tu fais un type de chip. Mais beaucoup vis-à-vis de l'équilibre, vis-à-vis le bounce ou le faster club et comment il faut positionner son corps, non, il n'a pas une différence. Tout ça, si tu veux, ça revient dans les années passées où, dans son dernier année de l'Université de New Mexico, il était incapable de mettre la balle sur le green 5 mètres devant le green. Et donc, on a bossé très fort, juste remettre ça plutôt en jeu. Mais les cicatrices étaient très, très profondes. Très profondes. Et plus, il ne faut pas oublier, lui est right eye dominant. Il est complètement gaucher, donc tu travailles avec quelqu'un qui est complètement métaphorcé, oui, je pense ça seulement, à son corps, son mouvement de corps. Il travaille constamment, c'est un bosser avec toi. C'est pas quelqu'un qui est feignant, c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut et qui assume.
Et au niveau du putting, est-ce que vous voyez une évolution depuis 2 ans ou c'est toujours le même, Victor?
Non, c'est toujours le... Il travaille beaucoup plus sur la décontraction, entre guillemets. Et donc, il travaille beaucoup avec Phil. Donc, j'essaie de retourner
Phil
avec
Kenyon?
Phil.
Phil Kenyon?
Yeah. Ouais. Et parce que dans un moment donné, quand il commence à malpoter, c'est difficile. C'est un peu... Le contact est un petit peu partout sur la face. L'alignement de le club est un petit peu différent. Mais c'est quelque chose que tu as besoin de vérifier tout le temps, en fait, le putting. Le putting, c'est quelque chose que tu as besoin de travailler tout le temps. Le grand swing, non. Mais le putting, oui. Wedging, oui. Ça, c'est où tout se tourne autour de ça.
Et vous disiez, Mike, que vous pourriez retourner travailler avec Phil Kenyon et Victor Pérez le putting, c'est ça?
Oui, moi, dans les automnes, en fait, j'avais quelques conversations et j'ai juste posé des questions. Pourquoi? Parce que dans un moment donné, Victor a isolé lui-même de tout le monde. Il voulait travailler lui-même, il voulait le faire tout en lui-même, il voulait... C'est plutôt, si tu veux, prendre toute l'information qu'il y avait et reformuler sa façon au niveau de jouer golf. Et tout simplement, moi, je posais la question, pourquoi, pour qui t'es fait, moi, je pense que ça, c'est une connerie, une bêtise, excuse-moi.
Non, pas de
Parce
souci.
que, avec Phil, il a poté super bien, très, très, très bien. Mais très bien, il était, dans le pote de moi de 3 mètres, il était une des meilleures dans le monde. Et il a vu Phil, je vais dire deux fois par deux tournois sur quatre, juste pour, tu sais, pour 1 heure et demie ou 2 heures, juste de remettre tout en place. Et ça, c'est important pour le cerveau. C'est très important pour la confiance. Parce que tout est basé sur la confiance. Quand tu crois, tu es bon et tu sais qu'est-ce que tu veux, tu peux faire tu peux faire plein de bonnes choses. Plein, plein, plein de bonnes choses.
Mike, pour terminer, vous aviez toujours dit que Victor irait très très haut, donc cette victoire ne vous étonne pas. Mais alors, vous le voyez reparti vers les sommets. Vous avez dit qu'il allait faire une grosse saison.
Moi,
voyez
je
comment
pense.
cette année
Oui.
et dans le futur, Victor Pérez,
Well,
Mike?
écoute, de plusieurs choses. La première chose, c'est en fait, il a déjà vécu cette situation où il a très bien joué très tôt. Il a mis lui-même dans nos positions, entre guillemets, pour le Ryder Cup, ça fait 2 ans. Tout le monde a parlé avec ça autour de lui, sauf vraiment des entourages. Des entourages, nous, on reste un jour à la fois, un tournoi à la fois, parce qu'on sait si tu occupes tous les jours, à la fin de le chemin, tu vas arriver. Et donc, on ne va pas dire. En fait, il a annoncé qu'il était dérangé par tout ça. Et donc, il n'était pas sélectionné pour le Ryder Cup. Plus tu avais des trucs avec le COVID, donc il s'est fait emporter une année après. Mais cette fois est différente parce que cette fois, il a déjà cette expérience. Il a passé 2 ans plutôt, on va dire, chaotique. Et maintenant, quand tu vois, pour moi, le sortie de bunker, il ne parle rien maintenant. Il parle absolument rien du tout. Donc, la question est, il est dans le meilleur joueur européen. La prochaine étape est qu'est-ce qu'il va faire sur le WGC, et après, c'est le Majors. Parce que c'est, il a retrouvé, il est confiant, il sait qu'il est dans le meilleur 3-4 joueurs en Europe. Il sait ça. Il sait. Maintenant, c'est la question, quel est son objectif vis-à-vis de WGCs, vis-à-vis de Majors? Est-ce qu'il va jouer plus tôt ou peut-être avoir une vision de jouer plus aux States? Moi, je ne peux pas nous répondre de ça, c'est que lui qui peut répondre. Mais moi, j'essaie. Il est très heureux en Écosse. J'essaie sa vie privée. Il est très heureux. Et ça, c'est le plus important qui va faciliter la suite. J'essaie aussi beaucoup parler avec Patrick Harrington, parce que Harrington a vécu toujours en Irlande. Il n'a jamais vécu aux States. Il était toujours basé en Irlande. La seule chose qui change, c'est que tu prends l'avion 2 jours plus tôt que le dimanche. Tu prends l'avion le vendredi pour adapter le chaleur, le décalage horaire et tout ça. Et après, tu fais ton boulot. Donc, il a beaucoup parlé avec de jeunes avec des expériences. Et je pense qu'il est beaucoup plus préparé pour cette année qu'avant. Franchement, c'est le vécu. Et le vécu, il est beaucoup plus à l'aise. En fait, quand tu regardes lui-même, il est très heureux. Il est très heureux, en fait. Très, très heureux.
Ok, Mike, merci d'avoir été avec nous. C'était passionnant comme toujours. Et bah, à très bientôt au micro de l'équipe de l'équipe.fr. Et puis bonne chance et à bientôt à Biarritz ou ailleurs ou
Merci.
à ce micro. Merci,
OK,
Mike.
avec plaisir. Ciao, ciao.
Au revoir. Allez, c'est à présent la fin de cette émission passionnante. On a quand même eu Victor Pérez et son ancien coach Mike Magger. On s'est régalé. Merci évidemment à Antoine Bourlon à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye.